Bonjour à tous et toutes. Bienvenue sur à la fois Radio Duo à Saint-Étienne et sur Radio Ondaine à Firminy, dans le cadre du salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses, quand même à le rappeler, cet événement qui se déroule pour sa 13e édition à Saint-Étienne, toujours Parc Expo Hall B, durant ce week-end des 24 et 25 novembre. Premier rendez-vous en table ronde de ce salon Tatou Juste autour d'une thématique bien particulière, puisqu'il s'agira d'interroger le manger éthique et local. Pourquoi, comment, sur cet espace radio, une table ronde en présence de différents invités que l'on va présenter bien sûr d'ici un instant. Alors on parle beaucoup d'autrement à Tatou Juste. La seule remarque que l'on pourrait faire tout de même ici, c'est qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui se situe sur un espace intitulé « Manger autrement ». C'est quand même une drôle de remarque et de constat ou d'observation. En tout cas, on parle beaucoup d'autrement à Tatou Juste, où il s'agit dans cette idée de présenter, représenter finalement des alternatives à un système ou à un ordre dominant, comme l'on dit. Le résumé de ce rendez-vous, de cette table ronde de ce matin, évoque une sortie de la marginalité, si vous avez lu le petit résumé. Et Tatou Juste défend l'idée de proposer plutôt que de dénoncer. Et je crois que le débat et les intervenants ce matin vont en être une digne illustration. Alors, alternative à quoi? Eh bien, on va dire à l'alimentation, la production et la consommation de masse, et ou industrielle, en l'occurrence, où on ne connaît pas l'origine de produits transformés, sa façon même d'être produit et qui le produit. Un dénominateur commun, peut-être pour ceux qui sont à cette table, c'est d'être force de proposition, de réappropriation de notre alimentation, de retisser peut-être des liens ville-campagne, une problématique que l'on abordait lors du salon d'ailleurs l'an dernier, et de renouer ou reconnecter finalement la terre à l'assiette. On a donc une transparence, une connaissance à tout échelon, garantissant souvent qualité de produit sans intermédiaire, permettant prix juste, en tout cas pour ceux qui produisent, et accessible, on va dire, au consommateur ou la consommatrice. Alors, vous représentez ici tous les quatre ces formes diverses et plurielles, illustrant cette volonté d'un accès, on va dire, économique, facilité aux produits écologiques locaux, et surtout de mettre en lien avec donc producteurs et productrices. Vous êtes magasin de producteurs, coopératif de consommation ou supermarché coopératif, association de producteurs et vente directe. On va un petit peu évoquer, définir aussi peut-être les différentes formes existantes. En tout cas, vous interrogez des modèles de production et de consommation classiques, certes, mais parfois même, vous interrogez des modèles finalement de fonctionnement et d'organisation structurelle classique. Peut-être sans salariat, coopérative, association, autogérée ou non. Bref, on va aussi pouvoir évoquer tout cela. Autant dire que finalement, cette table ronde est éminemment politique. Bienvenue à tous et toutes, au public ici présent. Je rappelle la règle du jeu, c'est que vous pourrez et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Un micro sans fil peut circuler et être à votre disposition. On va faire un tour de table. Allez, de présentation tout de même, on va partir d'un bout à l'autre de la table et je vous propose tout simplement de vous présenter en quelques mots, rapidement. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle donc Pierre-André Desplaude, je suis vigneron avec mon épouse et Rémi, associé dans le sud de la vallée du Gier, en agriculture biologique, et j'interviens ici pour un magasin de producteurs fermiers qui s'appelle Au Terroir, qui est donc rue Jules Dedin à Saint-Étienne, et qui est un des premiers magasins de ce type-là, de collectif de vente directe, qui a été créé dans la Loire, puisque avec la ferme du Pilat qui est à Pélussin, on a créé notre magasin en 1988. Donc cette année, on fait les 30 ans de notre magasin de producteurs fermiers.
Un anniversaire que vous avez fêté à de multiples reprises, voilà. D'ailleurs, cette année. On aura l'occasion de rentrer, bien sûr, plus attentivement dans la description et le fonctionnement aussi de vos structures propres. Ensuite, à votre droite, bonjour à vous.
Bonjour, Pierre-Édouard. Donc, je participe avec d'autres à la construction d'un supermarché coopératif qu'on a appelé La Fourmilière et qui ambitionne d'ouvrir en avril prochain vers le sud de Saint-Étienne, entre Centre 2 et Bellevue. Et donc, un supermarché coopératif, en un mot, c'est un supermarché autogéré par ses clients. C'est-à-dire que les clients financent, décident ensemble et tiennent ensemble le magasin.
Très bien. Ensuite, bon. À nouveau, à
bonjour,
votre droite.
Donc, Norbert, donc, je suis le directeur du Jardin de Valériane, qui est situé à Rive-de-Gier. Le Jardin de Valériane, rapidement, fait partie du réseau national des jardins de Cocagne. Donc, on a trois activités, c'est-à-dire qu'on est atelier chantier d'insertion, donc on embauche des personnes qui sont au chômage sur des contrats d'insertion. On va utiliser l'activité maraîchère, parce qu'on a une exploitation maraîchère, du coup, où on va produire une cinquantaine de légumes biologiques, du coup. Et tous ces légumes qui sont produits, on va les vendre donc à des particuliers sous forme de panier, du coup, et également un réseau de professionnels à peu près. Voilà. Donc on a une vingtaine de salariés sur une surface de 4 hectares. Et notre zone d'achalandise, c'est Saint-Étienne Métropole et la métropole lyonnaise également. Quoi.
Très bien, merci. Et puis enfin, dernier intervenant de cette table ronde, bonjour.
Bonjour, oui. Donc moi je m'appelle Pierre-Alain Prevost, je suis salarié de la ferme au quartier. Donc de la ferme au quartier, c'est une association qui commercialise les produits d'une soixantaine de fermes sur le bassin stéphanois. Initialement, c'était un peu le prolongement du mouvement des AMAP dans la Loire, donc la distribution de paniers dans des points de livraison sur Saint-Étienne. Ça s'est ensuite développé sur un groupement d'achat et notamment des agrumes corses. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir une véritable plateforme territoriale dont vraiment l'objectif est de démultiplier les circuits courts sur le bassin stéphanois. Et puis voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler.
Alors si je reprends la dimension éminemment politique que j'évoquais à la fin de mon propos introductif, on parle de circuit court, on peut parler de court-circuit, court-circuiter aussi finalement un certain système. Est-ce que d'abord ce que j'ai pu évoquer lors de ce propos introductif vous paraît recevable pour les uns et les autres? Vous êtes d'accord ou au contraire vous émettez quelques réserves? Je vous laisse réagir.
Oui, tout à fait. L'objectif de notre magasin de producteurs fermiers, c'est donc on a 12 fermes qui sont associées dans ce magasin, qui sont, on va dire, sur le Pila, le Forêt et la région de Rive-de-Gier et Mornant, dans le Rhône. Et l'objectif, c'est bien un circuit court, de la remise de vente directe auprès des consommateurs et le lien, pas quotidien, parce que notre magasin est ouvert deux jours par semaine, entre les producteurs et les consommateurs.
Est-ce que d'autres souhaitent réagir ?
Bah oui, pour nous, le supermarché coopératif, c'est clair qu'il y a aussi une dimension politique forte, puisqu'il s'agit bien de consommateurs qui reprennent en main, qui choisissent eux-mêmes la consommation qu'ils veulent avoir. Donc nous, dans un supermarché, il y aura de l'alimentaire, mais pas que. Et notre enjeu, c'est aussi d'essayer de sortir du cercle des convaincus, c'est-à-dire les convaincus comme peut-être vous et moi qui mangeons déjà plus sain, plus local, etc. Mais il y a aussi tous les autres qui sont plus nombreux que nous d'ailleurs. Et voilà, donc nous au supermarché coopératif, si demain on arrive à être 1000 comme c'est l'ambition, eh ben ça veut dire 1000 personnes qui se mettent autour de la table, qui apprennent à décider ensemble, qui apprennent à comprendre pourquoi un producteur il a telle et telle problématique, pourquoi un prix ça se forme comme ça, comment on fait tourner un magasin. Donc ça fait 1000 personnes qui apprennent à autogérer quelque chose ensemble. Ça en fait 1000 de plus qui se sont mis en marche. Qui se sont mis en mouvement.
Okay. Alors nous aussi, on milite un peu pour ça en disant qu'aujourd'hui, un bulletin de vote, ça peut aussi se traduire par qu'est-ce que j'achète, comment je l'achète et ce que j'achète ou comment est redistribué après sur le territoire cette valeur-là, quoi, du coup. Donc les jardins de Cocagne, nous, ça fait depuis 1993 que ça a été mis en place, du coup. Et tout de suite, c'était des idées un peu folles, quoi, en disant, mais attendez, vous allez faire travailler les gens qui ne savent pas travailler les légumes. Vous allez vendre ça dans des paniers où les gens ne vont pas choisir ce qu'il va y avoir dans les paniers. Puis vous allez les obliger à prendre un panier par semaine, quoi, du coup. Donc ça, c'était un peu les idées qui sont apparues dans ces années-là. Et tout de suite, on a vu qu'il y avait un extrême engouement de la part de consommateurs, quoi, on va dire, au départ, qui étaient beaucoup plus militants, du coup. Donc on militait, voilà, c'était un peu, j'adhère à un jardin de Cocagne, je défends un peu ces idées-là. Et aujourd'hui, on voit justement que, comme disait Pierre, c'est qu'on touche de plus en plus par nos systèmes d'organisation, qui sont un peu différents du départ, du coup, à des personnes qui n'étaient pas forcément sur du militantisme, du coup, mais qui veulent consommer autrement, sans avoir une idée préconçue, parce que aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui est agroalimentaire, on va dire que ça nous fait de la pub gratuitement, du coup, parce que aujourd'hui, acheter local, etc. et tout, c'est des choses qu'on défend depuis une trentaine d'années et qui, du coup, sont reprises aussi par les enseignes un peu plus, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, quoi, du coup.
Alors, on était dans une présentation assez générique. Pierre-Alain, je vais vous laisser aussi réagir là en dernier lieu. Mais finalement, je vois que chacun aussi se réapproprie la parole pour finalement revenir sur son modèle propre. Donc finalement, on va aussi peut-être poursuivre en ce sens. Pierre-Alain, pour De la ferme au quartier, où vous allez pouvoir présenter, parce que vous êtes aussi, vous, sur un modèle un peu particulier, singulier, parce que finalement, vous êtes une sorte de plateforme, une coopérative territoriale pour démultiplier les circuits courts sur Saint-Étienne. Alors, je vous laisse, on va peut-être prendre un petit temps justement pour revenir sur chacun de vos modèles ici présentés ou présents, représentés. On va commencer donc, si vous le voulez bien, Pierre-Alain, par De la ferme au quartier.
Mais je peux essayer de faire le lien avec la question précédente. C'était de, en fait, un des constats de la ferme au quartier, c'est de se dire globalement que depuis une soixantaine d'années, avec le développement de la grande distribution, ça a massifié les volumes, ça a entraîné une concentration aussi de l'agroalimentaire. Et tout ce schéma, en fait, a généré une industrialisation de l'agriculture à grande échelle avec toutes les externalités négatives qu'on connaît en termes de destruction d'emplois, de destruction de l'environnement, toutes ces choses-là. Nous, on part vraiment du principe qu'il faut des structures pour catalyser, on va dire, une dynamique inverse, en fait, c'est-à-dire une transition vers des systèmes agroécologiques territoriaux. Et donc ça ne passe aussi que par la structuration de circuits courts. Donc comment court-circuiter cette dynamique qui est mise en place depuis une soixantaine d'années? Clairement, je pense que c'est un constat qu'on partage tous ici, c'est des circuits courts. Après, l'enjeu aujourd'hui, après une vingtaine d'années, parfois peut-être une trentaine d'années d'expérimentation de différentes formes de circuits courts, donc magasins de producteurs, jardins de cocagne et AMAP, il y en a plein d'autres, c'est comment, en fait, sur un territoire, on arrive à créer un écosystème d'acteurs qui travaillent tous ensemble entre la production, la transformation et la distribution pour, en fait, sortir, comme tu le disais, Lionel, de la marginalité qui est aujourd'hui celle de l'agriculture, on va dire, agroécologique et qui est en marge, on va dire, du système conventionnel, que ce soit sur la production, la transformation ou la distribution. Donc, c'est après comment on organise de façon très intelligente et en synergie sur un territoire tous ces circuits courts. Donc ça, nous, c'est notre raison d'être. C'est vraiment le constat de départ. Alors, on s'est mis dans le prolongement d'un projet qui existe depuis longtemps, qui s'appelle donc De la ferme au quartier, qui s'était pensé comme le prolongement des AMAP sur le territoire. Donc comment on allait, en fait, distribuer des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne du territoire dans des quartiers où des AMAP s'étaient pas spontanément créés. Donc comme ça, on avait un maillage complet du bassin stéphanois avec de la distribution de paniers. La deuxième chose, c'était de se dire comment on peut, parce que dans les AMAP, on consomme pas l'intégralité de ces produits. Donc comment, pour les AMAP du territoire, on peut être une plateforme qui permet de faire venir des produits issus de l'agriculture paysanne, mais non produits sur le bassin stéphanois. Donc des huîtres, des coquillages, des agrumes. Et là, on a monté, De la ferme au quartier a monté un groupement d'achat. Donc ça, c'était les deux activités principales. Et là, depuis un an, on développe vraiment une activité nouvelle à destination des professionnels, c'est-à-dire comment on a une interface entre les fermes et tous les circuits de commercialisation du bassin stéphanois pour là vraiment amplifier la distribution de ces produits issus de fermes à taille humaine respectueuses de l'environnement du bassin stéphanois.
Donc vous avez des produits issus de 50 fermes, 10 points de livraison, si je ne me trompe, une boutique en ligne, c'est un peu le mode...
Alors, l'activité panier, c'était initialement, c'était vraiment comme des AMAP, donc sous la forme de contrat. On s'est dit qu'il fallait qu'on simplifie ce système pour sortir, on va dire, des milieux militants, en fait. Donc il fallait qu'on ait des systèmes de vente en ligne qui soient plus souples, plus flexibles, plus maniables. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis un an. Donc on développe un nouveau site internet qui permet justement soit des abonnements, donc c'est des contrats en ligne, on va dire, soit carrément de la vente en ligne où on peut commander jusqu'à la veille pour le lendemain, pour être livré dans ces 10 points de distribution. Et là, depuis quelques semaines, on est en train de travailler donc l'ouverture de nouveaux lieux de distribution, que ce soit ouvert à tous ou en entreprise. On travaille depuis 6 mois, on fait partie d'InterCE, donc c'est un réseau de 130 comités d'entreprise. Donc le but, c'est de faire de la distribution de produits issus des fermes du bassin stéphanois au cœur même des entreprises. Et depuis après 2 ans, maintenant, on distribue des paniers dans des universités. Donc on distribue à peu près 150 paniers par semaine dans 6 universités sur le bassin stéphanois, donc de paniers de fruits, de légumes, des œufs pour les étudiants.
Alors depuis des années, si je comprends bien, il y a la vente directe avec le système d'adhésion, de paniers existants que vous proposez. Et depuis cette année... J'aimerais qu'on développe un petit peu aussi ce nouveau cap que vous avez franchi et qui est de proposer d'être une interface, cette interface entre les fermes, les producteurs, les unités de transformation du territoire et ces circuits de commercialisation. Là, vous avez parlé de distribution auprès d'entreprises. De quoi s'agit-il exactement? Quelles entreprises? Quelle est cette offre à destination finalement des professionnels que vous développez depuis le printemps dernier?
En fait, c'est pour livrer des magasins bio, des primeurs, de la restauration collective, de la restauration commerciale. Enfin, donc toutes les personnes qui travaillent de l'alimentaire sur le bassin stéphanois, à l'exception notable de la grande distribution, il faut quand même le dire. Donc on ne distribue pas de produits, ces produits à Intermarché, Auchan, enfin tout magasin ou chaîne de magasins qui est issu des quatre grandes centrales d'achat. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un outil de commercialisation mutualiser des producteurs pour tous ces circuits de commercialisation.
Alors, si je comprends bien, vous refaites ou vous faites office, je dis refaites parce que je pense à finalement un modèle un peu dominant existant qui fonctionne par intermédiaire. Donc, si je comprends bien, vous faites un peu office de...
Merci pour la question.
Je gratte, bien sûr.
C'est pas du tout un problème. Nous, on fait le constat qu'il manque, il y a un chaînon manquant en fait sur les circuits courts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les circuits entre des magasins même bio ou des producteurs, mais en fait, tous les producteurs livrent tous les magasins chacun avec leur petite camionnette, par exemple. À l'inverse, vous avez tous les magasins bio qui, quand ils veulent faire du local, doivent travailler avec plusieurs dizaines, voire parfois une centaine de producteurs en local. Chaque producteur, il faut les référencer, il faut discuter avec eux, il faut négocier des prix. Derrière, à chaque fois que vous avez une commande, un producteur, une commande, donc 60 producteurs, 60 commandes, 60 livraisons, 60 bons de livraison, 60 factures. Donc en fait, tout ça, c'est des freins pour nous, de la ferme au quartier, au développement à grande échelle des circuits courts. De la même façon, donc ça c'est, on va dire, sur de la mutualisation de la logistique, de la commercialisation, de la préparation de commandes, de la facturation, de tout le côté administratif. Nous, notre proposition, elle va beaucoup plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on propose la constitution de filières territoriales circulaires et équitables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met autour de la table les producteurs, les transformateurs, les organisations professionnelles agricoles, de la ferme au quartier, et on voit comment on peut planifier la production sur le territoire, commencer à parler de prix qui soient rémunérateurs pour le producteur, le transformateur et le distributeur, et en même temps essayer d'aller chercher des prix qui soient les plus accessibles possibles. Donc comment presque on arrive à diminuer les prix qui sont aussi... Le prix, c'est des circuits courts, c'est aujourd'hui quelque chose qui... On a des prix qui sont relativement élevés sur les circuits courts. Il faut qu'on arrive sans casser les prix, sans être dans une logique de grande distribution qui, à la fin, industrialise et détruit en fait les territoires, avoir des prix qui soient intéressants et rémunérateurs pour tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire avec ces filières territoriales. Et circulaires, pourquoi ? Parce que on sait, l'exemple classique pour comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 30% de ce qui est produit est gaspillé sur la chaîne alimentaire, mais c'est aussi 30% de la valeur qui est perdue. Donc nous, à l'échelle d'un territoire, comment on réintègre ce gaspillage alimentaire dans la chaîne de valeur ? Donc là, aujourd'hui, on le fait notamment avec la fabuleuse cantine. Donc aujourd'hui, la fabuleuse cantine, nos invendus à la ferme au quartier sont transformés en plats cuisinés qu'on va commercialiser derrière. Qu'est-ce qui se passe dans quelques mois ? On va surtout collecter tous les invendus des biocops sur le territoire pour les ramener à la fabuleuse cantine. Et de la même façon, on est en train d'organiser avec les producteurs, dans le cadre de cette filière territoriale sur les légumes, comment les maraîchers peuvent ramener sur la plateforme leurs écarts de production, leurs excédents de production, qui aujourd'hui sont très très mal valorisés, pour les transformer et réinjecter ça dans la chaîne de valeur. Donc avec cette circularité, en fait avec la mutualisation et la circularité, nous on estime qu'on va pouvoir avoir des prix qui soient à la fois très accessibles et qui vont rémunérer tous les acteurs sur la chaîne. Voilà. Et la dernière chose, c'est que ça va pouvoir développer un tout petit peu des petites économies d'échelle à tous les niveaux, qui à la fin vont faire qu'on va avoir des prix accessibles et de la rémunération.
Vous n'hésitez pas, bien sûr, voilà, les uns et les autres, et même,
oui,
ici à la table, à réagir.
Alors, je voulais compléter un peu ce que disait Pierre-Alain, pardon. C'était justement que, effectivement, quand on parle de plateforme, de coopérative, etc., et tout, ça fait penser un peu au milieu qui existe dominant. Une des grosses différences aussi qui fait, parce que là, je m'adresse en tant que producteur de légumes, du coup, c'est qu'à un moment donné, quand la ferme au quartier a décidé de changer d'échelle, au lieu de le créer tout seul dans son coin et, on va dire, de rentrer en concurrence avec tout ce qui peut exister sur le territoire, la démarche a été de rencontrer un peu toutes ces structures, parce que aujourd'hui vous avez fait le tour du salon, des paniers, vous en avez un peu de partout, quoi. Du coup, chaque structure, chaque a son point de dépôt, a son fonctionnement, etc. Et tout. Et c'est vrai que nous, on a vu, de vue notre antériorité, pas mal de structures se monter comme ça, mais sans forcément se coordonner avec celles qui existaient, et de voir un peu les partenariats qui pouvaient naître ou créer par rapport sur des questions, par exemple, très pratico-pratique de livraison, du coup, de créer un moment où on va tous de notre production, hop, on va faire des points de dépôt, et puis le collègue fait à côté, donc il est déjà là, nous on est là. Enfin voilà, et à un moment donné, vu l'ambiance que, ben, on sait tous qu'aujourd'hui, ben, la vente en circuit court, c'est plus un effet de mode d'il y a 20 ans, quoi. Du coup, maintenant c'est ancré. Du coup, donc ça aiguise un peu les appétits de tout le monde. Donc quand on est en structure associative, ESS, on va dire que voilà, on arrive quand même à se coordonner et à se parler et à se connaître. Mais après, il faut voir aussi que, ben, y a des structures à but lucratif qui vont aussi se mettre là-dessus. Donc on a intérêt, nous, on va dire, à se coordonner, à se rencontrer en disant qu'on a au moins les mêmes valeurs, c'est-à-dire de produire et de vendre dans un circuit assez court, quoi, du coup. Et que la valeur qui va être créée sur cette activité, elle redescende sur le territoire, quoi, du coup, en gros. Alors pour le Jardin de Valériane, c'est tout ce qui va être insertion et lutte contre l'emploi, du coup, mais quand la ferme au quartier a décidé justement de prendre ça, bah, c'est aussi de voir un petit peu ce qui existait, de rencontrer tout le monde, de les mettre au courant du projet, de créer, bah, y a des réunions qui sont mises en place là dernièrement entre les maraîchers en disant bon bah voilà, les volumes qui sont là, on se met d'accord sur les tarifs, on dit voilà, tel légume on va le vendre tant, et puis qui c'est qui le produit. Et ça, c'est des méthodes qui n'ont pas lieu d'être, je pense, dans l'agroalimentaire ou les circuits de distribution classiques, quoi, du coup. Donc c'est un des gros points de changement, c'est de dire on essaye de créer quelque chose qui va coordonner tout ça. Alors on peut être, nous, je veux dire, le Jardin de Valériane, entre guillemets, on n'en a pas besoin parce que nos capacités de production, enfin, on a des demandes de personnes de plus en plus. Mais à un moment donné, on peut avoir une production de légumes et vinicoles ou des choses comme ça, des surplus, on ne sait pas quoi en faire, quoi, du coup. Et on revient sur les 30% de pertes, où nous, bah, quand on produit, si on arrivait à tout vendre, ça serait super, sauf qu'à un moment donné, c'est très compliqué, quoi, du coup. Dès qu'on produit quelque chose, il y a des déchets, il y a des pertes, etc. Et pour nous, bah, la ferme au quartier, ça peut être un très bon moyen de dire, bah, on a un volume à passer qu'on n'arriverait pas à le faire tout seul, quoi, du coup, parce que bah, nos clients, etc., si on a 600 kilos de pommes de terre en trop, bah, on ne va pas pouvoir les passer. Alors que si on les passe sur la ferme au quartier, bah, en développant un chaînon territorial de magasins, de choses comme ça, que nous, on ne peut pas faire tout seul, on n'a pas une équipe qui est dédiée à ça, du coup.
Très bien. Alors du coup, oui, il y a cette expérience effectivement qui est menée depuis déjà quelques temps avec ta fabuleuse cantine. Donc c'est une cantine un peu alternative, hein, qui existe là sur le quartier Manufacture à Saint-Étienne.
Cuisine anti-gaspi, ouais.
Cuisine anti-gaspi, puisque le but effectivement, et vous l'évoquiez avec votre projet de partenariat, c'est transformer le surplus, les surplus, viande, légumes, etc., en plats cuisinés. C'est l'idée. Et donc de travailler à terme à la collecte des excédents rebuts des maraîchers, des invendus. Et donc c'est l'objectif étant bien sûr le zéro déchet finalement.
D'ailleurs, c'est du temps de midi, du coup, donc on a un partenariat avec la Fabuleuse Cantine pour vous restaurer. Donc on a amené des légumes hier qui ne pouvaient pas être vendus. Donc on vous propose sur le bar et restauration un petit revenu justement de légumes préparés.
D'accord. Juste pour terminer sur de la ferme au quartier, vous avez reçu, je ne sais pas, on dit un prix, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'était début de l'été, le 29 juin, de la ferme au quartier a fait partie des 44 projets retenus sur 1200 par le ministère de l'Environnement pour ces actions diverses, justement, qui finalement aussi sont une forme de lutte contre le dérèglement climatique. Donc vous avez été quand même
bah oui, parce que
salué pour votre démarche.
Enfin, si je peux en dire un mot, on fait partie donc des projets un peu pilotes sur la lutte contre le dérèglement climatique parce qu'on propose un peu à l'échelle d'un territoire de relocaliser à très grande échelle la chaîne alimentaire et d'enclencher une transition agroécologique des exploitations à grande échelle. Donc, aujourd'hui, l'agriculture elle est considérée comme étant responsable de 50% des gaz à effet de serre, pas l'agriculture, toute la chaîne alimentaire quand on prend tout compris, les transports, la chaîne du froid, le gaspillage alimentaire. 50% des émissions de gaz à effet de serre. Nous, on essaie de structurer une dynamique, une coopération sur un territoire qui fait qu'à un moment, cette chaîne alimentaire, elle va plutôt capter du carbone qu'elle va en émettre. En tout cas, elle va en capter plus qu'elle va en émettre. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et donc, pour ça, on a été retenu parmi une cinquantaine de projets par le ministère de l'Environnement. Voilà. Et juste pour rajouter par rapport à ce que disait Norbert, nous, c'est vraiment ça. C'est une coopérative territoriale. Donc, nous, on se pense vraiment comme un outil collectif, autant des producteurs qui ont des problématiques de commercialisation et donc on essaie de leur proposer des solutions pour mutualiser cette commercialisation et qu'elle se fasse de façon plus fluide, plus efficace. C'est un constat qui est largement partagé dans les milieux paysans, que dans les circuits courts, on passe beaucoup de temps à livrer et donc parfois on travaille beaucoup pour une rémunération qui est pas si excellente que ça.
Et on va reparler de... Oui,
et de la même façon, on se pense comme un outil de mutualisation de la commercialisation. C'est-à-dire, on mutualise des approvisionnements pour des magasins bio, pour de la restauration collective, pour des primeurs, des restaurateurs sur le bassin stéphanois. On leur facilite la tâche. C'est-à-dire, on se dit, ça, c'est notre métier. En gros, après vous avez un interlocuteur unique, vous avez tous les produits, on harmonise les prix qui sont rémunérateurs, parce que si, c'est pareil, dans les circuits courts, tous les producteurs ont des stratégies, on va dire, de commercialisation propres à leur ferme. Donc, on va avoir des prix qui vont être très variables et des qualités qui vont être très variables d'une ferme à l'autre. Qu'est-ce qui se passe, en face, quand il y a un magasin? Bah, s'il y a un prix inférieur, il va aller vers le prix inférieur. Donc là, on reproduit la même chose qui se passe sur la grande distribution depuis 60 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner ce cadre collectif pour générer de la confiance et démultiplier les volumes pour tout le monde.
Oui, on va essayer de reparler de cette cruciale question du juste prix, finalement. Mais puisqu'on parle rémunération et on parle travail, Pierre-Alain, tu es salarié de la ferme au quartier ?
Oui.
Alors, moi, ça me pose la question, tu es seul salarié, plusieurs salariés au sein de cette coopérative ?
Aujourd'hui, il y a un conseil d'administration de 23 membres où il y a 7 agriculteurs, il y a une quinzaine de consommateurs. Les salariés, donc nous, on est 4 salariés plus un service civique et une stagiaire, donc on est à peu près 7 personnes. Et en fait, on fait partie du conseil d'administration. Aujourd'hui, on fonctionne avec les statuts de création de la ferme au quartier, donc c'était il y a 7 ans, en 2011. Là, l'idée vraiment, c'est qu'à la fin de l'année 2019, on devienne une coopérative. Et cette coopérative, l'idée, c'est que les différentes parties prenantes soient représentées, donc que ça soit là, on va dire, une fusion entre une coopérative agricole, donc un collège avec des producteurs, une SCOP, donc que les salariés fassent partie de la gouvernance. Et les consommateurs soient aussi partie prenante de la gouvernance. Après, il y aura certainement peut-être d'autres collèges pour intégrer d'autres partenaires, parce que vu qu'on se place comme un échelon d'une coopérative territoriale, bah, il faut que toutes les parties prenantes de la chaîne alimentaire participent à la gouvernance de la structure, quoi.
Donc on parle de projet de coopérative pour donc 2019. Et juste une question sur ces multiples emplois en place pour l'heure. Quelles compétences cela recouvre-t-il ? C'est-à-dire, vous n'êtes pas finalement des producteurs, porteurs finalement du projet coopératif. Vous êtes quoi ? Quelles compétences sont requises pour ce type d'emploi? Vous êtes des gestionnaires, vous êtes des... Voilà.
Bah, en fait, c'est aussi une des raisons d'être de la structure, c'est que pour les circuits courts, on ne peut pas être que soit producteur, soit distributeur. Il faut plein d'autres compétences au milieu. Donc nous, on se propose qu'une partie de ces compétences soit à la ferme au quartier. Donc aujourd'hui, à la ferme au quartier, il y a quelqu'un qui vient du milieu de l'informatique. Moi, je viens du milieu de la gestion finance, mais j'ai travaillé pour un syndicat agricole qui s'appelle la Confédération Paysanne pendant 4 ans. Et on a aussi des personnes qui sont issues d'école d'agro, parce qu'on a besoin de ces compétences-là. Voilà. Donc moi, j'ai aussi des compétences un peu de communication. Donc on a un panel de compétences qu'on met au service des uns et des autres pour le développement des circuits courts sur Saint-Étienne.
Merci pour ces précisions. On rappelle que vous êtes situé 2 Esplanade Bénévent à Saint-Étienne. Vous trouverez toutes les infos en fouillant sur le net et autres, et puis bien sûr en retrouvant le programme ici de Tatou Juste. J'aimerais juste qu'on fasse transition, parce que alors, en fait, vous travaillez vous-même ici, là, les 4 intervenants et représentants de vos structures propres, largement en partenariat finalement déjà. Hein. Vous vous connaissez bien sûr, vous travaillez parfois ensemble, étroitement. On va enchaîner avec Au Terroir et Pierre-André, si vous le voulez bien, pour un autre modèle. Vous êtes paysan vigneron, vous êtes donc porte-producteur, vous êtes à Tartara. Ouais. Et donc, vous représentez cette structure, ce magasin de producteurs, créé il y a 30 ans de cela, Au Terroir. Vous avez fêté, je le disais, en ouverture dignement ces 30 ans cette année, 2018. Magasin créé au printemps 88, installé 8 rue Jules Le Dain, quartier Jacquard à Saint-Étienne. Alors, vous, il y a 30 ans, est-ce que c'est un modèle qui vous semble passéiste quand on voit, j'ose la question, hein,
non, je
au vu des nouvelles initiatives, des marches qui se développent?
Non, c'est complémentaire. De toute façon, la plupart des paysans qui sont des fermes qui sont associées au terroir livrent aussi, participent aussi à des AMAP, mettent aussi des produits à la ferme au quartier. Donc c'est complémentaire. Juste pour rebondir deux mots sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, les paysans, notamment dans notre territoire très périurbain, on est confronté au fait qu'on doit avoir un petit peu trois métiers, donc produire sur nos fermes, transformer souvent, que ce soit des fromages ou de la charcuterie ou d'autres productions, et vendre. Et donc, il faut, dans l'organisation de nos fermes, même si la plupart des fermes qui sont notamment au terroir sont aujourd'hui des GAEC, c'est-à-dire des fermes où il y a plusieurs associés, la question de la livraison et de la vente et de la commercialisation, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'optimiser le plus possible parce que après c'est pris, sinon tout ça est pris sur le temps de la production, et le cœur de notre métier c'est quand même d'arriver à produire sur nos fermes. Donc voilà, je crois que c'est quand même important qu'il y ait d'autres structures qui se montent parallèlement au marché et au magasin de producteurs fermiers.
Alors vous, il y a 13 producteurs actuels associés. Vous êtes, vous, sous la forme juridique, une SARL.
Oui, donc on est sur une forme de SARL, donc qui a été créée en 1988. Alors l'intérêt de cette forme juridique, c'est que en fait, on a une société dans laquelle on peut rentrer avec un capital social qui est assez faible. Donc les producteurs, par exemple, on a intégré il y a 2 ans une maraîchère qui s'est installée sur la région de Mornant dans le Rhône. Son installation, on va dire, est pratiquement corrélée à la vente au terroir. Avec 300 euros de capital social pris dans le magasin, aujourd'hui, elle commercialise à peu près 80% de sa production maraîchère bio dans le magasin au terroir. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Ensuite, la forme de SARL, ça veut dire qu'on est 12 fermes qui sont 12 co-gérants. Donc c'est aussi une aventure humaine qui est assez enrichissante et assez intéressante, parce que c'est la co-gestion, c'est les prises de décision collectives, c'est les orientations. Voilà, c'est une réunion tous les 2 mois de la co-gérance. Alors on travaille avec une salariée qui est pratiquement à plein temps maintenant, qui nous épaule dans les tâches administratives, parce qu'on doit aussi, en tant que SARL, avoir beaucoup de tâches administratives. Et c'est vrai que c'est du temps qui est pris en plus de nos fermes et de la commercialisation.
Donc une salariée autre que ces fermes, voilà, ou producteurs ou productrices, oui, co-gérantes.
Voilà. Hein,
ok, 13 producteurs donc actuels. Alors vous proposez des produits fermiers de qualité, toute une gamme, hein, produits laitiers, miel, carnet, fruits, légumes, vins, œufs et j'en passe. Ils sont aussi pour certains et certaines largement représentés, oui, ici, voilà, sur Tatou Juste. Là aussi, vous proposez bien sûr des produits de saison à un prix juste. Donc là aussi, on va peut-être en reparler. Est-ce que vous-même distribuez dans d'autres points de vente ? Parce que vous êtes situé à Tartara. On parlait tout à l'heure en ouverture aussi de connexion ville-campagne. Donc on n'est pas très très loin. Mais Tartara, quartier Jacquard, centre-ville, Saint-Étienne. Est-ce que vous avez d'autres points de distribution,
oui, on est
en ce qui concerne vous, votre activité aussi de vigneron ?
Nous, sur notre ferme, on est dans une dizaine d'AMAP à peu près. Sur la région stéphanoise, un petit peu sur le Lyonnais. Voilà, sur la vallée du Chier. On va encore aujourd'hui pratiquement 70% de notre production en vente directe, donc à la fois au domaine, dans des salons, dans les AMAP, le magasin de producteurs fermiers, bon, après quelques biocopes. Voilà, on produit aussi des raisins de table qui sont vendus principalement au magasin au terroir et dans les AMAP.
Alors, on revient à cette question du juste prix, si vous voulez bien, sans prendre forcément votre exemple propre, Pierre-André Desplaudes. Vous vendez du vin, vous êtes dans un modèle en plus de production en biodynamie, il me semble.
Ouais,
donc c'est
voilà,
une démarche aussi tout à fait particulière. Seulement, voilà, comment ça se passe quand on vend son produit, votre vin en l'occurrence, mais les autres gammes aussi de produits qu'on trouve sur le magasin. Un magasin de producteurs, ça demande aussi des charges inhérentes à la fois au local, au lieu, enfin tout un ensemble, une salariée, donc une charge salariale, etc. Voilà, comment on établit effectivement et on évalue ce fameux juste prix ?
Dans notre magasin au terroir, chaque producteur fixe son prix en fonction. Alors pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est aussi en fonction un petit peu des saisons. Hein, les premières pommes de terre nouvelles et les premières fraises sont au départ un petit peu plus chères que plus tard dans la saison. Ce qui est intéressant dans notre situation aujourd'hui, c'est qu'on a un local qui est effectivement, qu'on peut considérer un petit peu comme étroit et peut-être vétuste.
Projet d'aménagement.
Voilà, on a des projets d'aménagement. Ça nous permet quand même aujourd'hui d'avoir une gestion, par une gestion assez rigoureuse, d'avoir un prélèvement auprès des producteurs pour faire tourner le magasin qui n'est que de l'ordre de 11 à 12%. Donc ça veut dire que par rapport au prix où on vend chez nous, on n'a pas un surcoût très important sur le magasin. Et chaque producteur, en fonction de ses coûts de production, fixe son prix au magasin. Et il y a une harmonie entre les producteurs. Il y a aussi des discussions par moment entre producteurs pour essayer d'harmoniser un petit peu les prix et qu'on ait des prix qui soient abordables pour les consommateurs.
Oui, parce que là, il y a toute la question, mais je vais me faire un peu le porte-voix du consommateur ou de la consommatrice lambda, qui parfois peut faire la remarque de dire, sur ces marchés ou ces magasins de producteurs, on se retrouve finalement face à des prix qui sont souvent plutôt élevés. On joue effectivement sur la qualité du produit, certes, mais c'est l'équilibre à trouver entre à la fois la vente directe, donc du coup on rémunère directement le producteur pour aussi un juste salaire, et à la fois, en tant que consommateur, on ne passe sans intermédiaire et autres, et pourtant on se retrouve avec un prix qui reste assez élevé. Donc parfois il y a une incompréhension ou mécompréhension sur cet aspect-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais remarque générale.
Oui, on a effectivement peut-être des prix dans notre magasin qui sont un tout petit peu plus élevés que les prix qu'on peut trouver au marché de producteurs. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a la traçabilité. On a une charte, on adhère à un réseau qui s'appelle Terre d'Envie, un réseau régional, qui garantit que les produits sont des produits de nos fermes et non pas des produits qu'on est allé acheter au marché de gros et qu'on revend ensuite, soi-disant, comme produits fermiers. On a aussi un service qui est apporté à nos consommateurs, puisque effectivement on peut trouver tout pratiquement avec 12 fermes qui remettent les produits. On a, au lieu d'aller faire le tour de 10 magasins, on a pratiquement toute la production fermière dans notre magasin. Les gens peuvent commander par téléphone et passer chercher leurs commandes en fin de journée. Voilà, il y a un service qui est en plus par rapport à ce qu'on peut trouver sur un marché de producteurs fermiers qui peut justifier peut-être les 4 à 5% de prix supplémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver sur les marchés.
Merci Pierre-André. On le rappelle, Au Terroir, magasin de producteurs, vous avez fêté 3 événements anniversaires cette année. Il y a eu un rendez-vous sur le plus curieux musée de la mine, Saint-Étienne. Il y a eu un rendez-vous en cinéma à la rentrée, côté Grand Luxe d'ailleurs, quartier Bellevue. Et puis encore une pièce de théâtre jouée récemment, salle Jeanne d'Arc. Ce sont les 30 ans donc
novembre, ouais.
Cette année. Voilà, Du Terroir, premier magasin de producteurs à voir le jour dans la région, un des rares à être installé tout de même en centre-ville, il faut le préciser, Jules Ledin, donc quartier Jacquard, avec tout, voilà, quand je parle de centre-ville, c'est que tous les inconvénients que cela aussi occasionne, bien sûr, vide quartier,
parking,
stationnement, etc., etc. Mais voilà, des valeurs communes, de la bonne humeur, voilà pour un des modèles existants qu'on voulait aussi présenter, proposer. On va enchaîner avec une autre forme. Cette fois de vente, de distribution, de circuits courts, de courts-circuits. C'est le supermarché collaboratif La Fourmilière. J'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi sur ce modèle-là. Alors, vous, c'est aussi un projet, finalement. Hein. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on, dans un premier temps, on commence par le commencement et par, finalement, une sorte de définition des choses. On parle de, alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, de coopératif de consommation, de supermarché coopératif. En fait, La Fourmilière, c'est quoi exactement? Vous avez largement aussi planché, finalement, aussi sur le modèle, la structure, finalement, juridique, quelque part. Je vous laisse vous le présenter, Pierre-Édouard.
Eh ben, un supermarché coopératif, donc c'est effectivement, c'est une coopérative, déjà, structurellement, juridiquement. Donc c'est un petit peu différent d'une association. Et sont membres de cette coopérative, c'est-à-dire co-associés, les futurs clients du magasin. Et donc ça veut dire 3 choses, ça veut dire financer en achetant ce qu'on appelle des parts sociales, ça veut dire décider ensemble de qu'est-ce qu'on va faire de ce magasin, comment on va le monter, qu'est-ce qu'on va y vendre, à quel prix, etc. Et ça veut dire tenir le magasin sur la base d'un engagement par personne de 3 heures bénévoles par mois. Et donc tout ça permet de structurer un magasin qui appartient à ses clients, ou magasin autogéré, plusieurs manières de le voir. Donc nous, on aime bien parler de supermarché coopératif plus que collaboratif. La petite nuance qu'on fait entre les deux, c'est que collaborer ensemble, c'est bien, mais coopérer ensemble, c'est mieux, c'est plus dur, mais ça va plus loin parce que on est tous copropriétaires de ce magasin-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, personne, in fine, décidera à notre place de ce qu'on va en faire.
Alors ça, c'est intéressant en termes de gouvernance. Comment se prennent malgré tout les décisions, du coup? Parce que là, vous sortez donc du cadre très classique. Il y a déjà des expériences d'autogestion dans ce cadre-là qui sont assez modèles et références d'ailleurs en la matière. Hein. Des modèles anglais, des modèles même dans la région, lyonnais, je pense. Comment vous allez fonctionner précisément?
Nous, on va fonctionner au quotidien avec quelques salariés, un, puis deux, puis trois, puis quatre dans les quelques années qui arrivent, qui vont permettre de faire fil rouge pour les coopérateurs quand ils viennent dans le magasin participer donc pendant 3 heures à tenir le magasin, c'est-à-dire faire la caisse, faire le ménage, mettre en rayon, accueillir une livraison. Les prises de décision, elles se font avec un travail assez profond Bon, aujourd'hui, on appelle ça la gouvernance partagée, mais peut-être qu'à une autre époque, on aurait plutôt parlé d'autogestion, etc., ou dans d'autres milieux, selon le niveau de militantisme. Mais bon, en tout cas, on développe beaucoup d'outils et de méthodes pour apprendre à décider ensemble. Et donc, se poser la question de qu'est-ce qui se décide à quel niveau, en petit groupe, en grand groupe, en groupe plutôt moyen, avec quel type de méthode. On développe des méthodes de travail qui permettent d'éviter de voter à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, où il y a une minorité qui subit un peu la tyrannie de la majorité. Donc on parle de prise de décision par consentement, etc. Et voilà, donc grâce à ces différents échelons, on se forme et on s'interroge tous ensemble. Et ben on essaye de prendre les bonnes décisions aux bons endroits. Donc voilà, les décisions de gestion courante, de tenue du magasin, il y a des salariés pour ça. Par contre, les grandes décisions est-ce qu'on travaille avec de la ferme au quartier ou est-ce qu'on veut que des producteurs en direct ? Ça, c'est des décisions plus importantes qui se prennent en plus grand groupe. Et donc pour ça, on a des forums, on a des assemblées générales, ce genre de choses.
Ou des commissions. L'assemblée générale, c'est terminé.
On a aussi des commissions aujourd'hui qu'on appelle des groupes de travail, voilà, qui préparent l'ouverture de ce magasin qui n'existe pas encore en avril prochain. Et notamment une commission qui s'occupe des appros. Et donc, que fait cette commission ? Elle va rencontrer des producteurs en direct. Donc c'est vraiment des gens comme peut-être vous et moi qui... On n'est pas spécialiste, on n'est pas pro de la création de... alimentaire, la production alimentaire ou non alimentaire, parce qu'on va vendre de tout. Et donc, en allant voir les producteurs, et ben on se forme, on comprend leur réalité, et en se mettant autour de la table de la ferme au quartier, par exemple, avec des maraîchers comme il y a quelques temps, et ben on comprend comment on fait pour que les maraîchers ils aient envie de faire des prix avec des volumes plus importants, ou pas parce qu'ils peuvent pas, parce que c'est pas leur modèle de production, et comment nous, en face, avec la marge du coup un peu réduite qu'on va avoir, puisque le gros de l'animation du magasin est fait par des bénévoles, on arrive à la fin, parce que c'est aussi notre ambition, justement, tu parlais de prix. Notre ambition, c'est aussi de rendre un petit peu plus accessible des produits de bonne qualité. Et on va même pousser le vice jusqu'à vendre des produits, quelques-uns, qui seront pas bio et pas forcément locaux, justement, pour être un peu plus inclusif, un peu plus ouvert à toute une population qui ne va pas dans les magasins de producteurs, ne va pas dans les magasins spécialisés, etc. etc.
Alors, je gratte encore. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de concurrence aussi qui se développe dans ces multiples alternatives proposées ? C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez faire un prix plus accessible que quoi ? Que le magasin de producteurs ? Que la map du coin ? Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on ne rentre pas aussi dans ces travers-là, quelque part ?
Ouais, tout à fait. Ça pourrait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention les uns aux autres et se parler et participer aux mêmes instances. Nous, par exemple, on a fait des choix assez forts. C'est qu'on a décidé que notre lieu d'implantation, notre magasin, il ne serait pas en centre-ville, parce qu'en centre-ville, il y a par exemple déjà le terroir, Vrac en Vert et une Biocoop. Donc on s'est dit, en fait, c'est nul, parce que même si on est différent, il y a quand même du commun. Donc si on se met à côté d'eux, on n'a rien compris. Donc on est allé se mettre un peu plus loin. Et donc on sera entre Centre 2 et Bellevue, dans un endroit où il n'y a pas de mode de consommation alternatif, quel qu'il soit. Et donc voilà, on fait ce choix-là, on fait le choix de participer aux travaux de la ferme au quartier. Donc moi, j'y participe personnellement et du coup, j'y représente un peu la fourmilière. Donc ça veut dire qu'on y met du jus aussi, hein, bénévolement, à cet outil collectif qui va à la fin servir tout le monde. Et voilà, donc on fait attention à ça pour justement pas tomber là-dedans et à la fin se faire concurrence entre nous, alors que ceux qu'on veut concurrencer, c'est ceux qui sont pas dans le genre de salon, c'est-à-dire la grande distribution classique.
Pierre-Alain voulait réagir.
C'est ce que j'allais dire, c'est est-ce que on se fait tous la guerre dans un bocal ? Ou alors, est-ce qu'on se met tous autour de la table pour, à un moment, inventer un nouveau modèle agricole, un nouveau modèle alimentaire ? Et comment on s'associe, on génère de la coopération sur le territoire, à un moment, pour remplacer la grande distribution ?
Ça fait 18 mois, je crois, que vous planchez, voire plus, sur cette expérimentation, finalement.
Ça fait 2 ans, là,
sur ce projet de supermarché coopératif stéphanois. Mais enfin, le lancement est officiel. Hein,
Ouais, la coopérative existe, tout le monde peut devenir coopérateur, et le magasin ouvrira, en principe, en avril 2019.
Voilà, alors en même temps, il y a quand même encore un appel qui est lancé. Est-ce que vous avez véritablement réuni vos... je crois que c'était 200 coopérateurs ouais. nécessaires. Est-ce non. que l'objectif est atteint
On en est à 125. Et il y a un petit tableau sur notre stand, des petites fourmis qui s'accumulent. Et donc vous pouvez voir en temps réel à combien on en est. Donc le but, c'est d'être 200 d'ici la fin de l'année. Et à 3 ans, d'être 1000. Et tout ça, c'est des énergies pour... créer ce projet, et c'est aussi un peu de sous, parce que devenir coopérateur, ça veut dire mettre une petite part dans le capital, ou une grosse part si on a un peu plus de moyens, et ça nous permet aussi de lever le reste des financements. Donc aujourd'hui, tout est à peu près OK, il nous manque donc encore 70 coopérateurs pour finaliser l'affaire et lancer un chantier participatif en début d'année prochaine.
Allez, ils sont presque là. si vous voulez plus d'infos, parce que ça c'est aussi quand même un point très important, c'est qu'il s'agit bien sûr d'intervenir, d'agir en connaissance de cause, bien sûr. Alors, il y a à la fois ici, c'est l'occasion sur ce salon, mais finalement, le supermarché, la coopérative, propose des rendez-vous très réguliers, justement, d'information, de sensibilisation sur cette question, comment ça fonctionne, comment on souscrit, enfin, etc. Donc, vous avez organisé des rencontres depuis cette rentrée. Il y en a une le 21 septembre, il y en a eu une cette semaine, le 20 novembre dernier, là, c'était il y a quelques jours, et vous en proposez une nouvelle. Ce sera, si je ne me trompe, pour la fête des Lumières, enfin, ouais, le 8 décembre. Ouais. C'est bien ça. Donc, je te laisse présenter quand même et rappeler ce rendez-vous.
Ouais, donc le 8 décembre, on sera toute l'après-midi et la soirée à l'Amicale Michelet, donc rue des Passementiers, donc très proche, à 300 mètres de notre futur magasin. Et voilà, on va faire la fête, des ateliers l'après-midi où si vous savez faire des choses avec vos mains, avec votre tête, avec vos corps et que vous voulez venir le présenter aux autres, ce sera le moment. Un peu de musique, un repas qui sera préparé par un groupe de cuisinières de l'Amicale Michelet, qui nous préparera un couscous. Voilà, donc un moment d'échange, l'occasion aussi de venir trouver de l'info sur ce projet, si vous voulez.
Très bien. Pour compléter l'information, je me permets juste de rappeler la revue Silence, que vous connaissez peut-être, ouais, qui est une revue régionale basée à Lyon, qui fait la part belle à l'écologie, aux alternatives, à la non-violence. Et dans son numéro de septembre dernier, eh ben, il y avait tout un dossier qui, ouais, était consacré précisément à l'autogestion et aux coopératives alimentaires. Autogérons les coop alimentaires, différentes initiatives, modèles existants qui étaient référencés dans ce très bon numéro que je vous recommande chaudement. On va faire transition, parler de la fête des Lumières, lumière, feu, incendie, pour faire transition, parce que les jardins de Cocagne et le jardin de Valériane a subi un incendie il y a peu. J'espère que tout est rentré dans l'ordre et que ça n'a pas été une difficulté supplémentaire pour la viabilité de vos structures.
Alors non, du coup, tout va bien. C'était quand même un gros choc pour toute l'équipe du jardin. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est victime d'actes de malveillance, du coup, sans que, en alertant, on va dire, les forces de police, des choses comme ça, etc. et tout. Là, on commence à en avoir un peu ras-le-bol, quoi. Du coup, alors on a des doutes, on va dire, sur l'origine de ces actes, mais c'est que des doutes, quoi. Du coup, donc bon. Mais en tout cas, ce qui nous porte, on va dire, c'est que au final, ça nous a pas trop. Alors, le dossier est en train d'être géré là par l'assurance, du coup, militante et coopérative. Donc, on verra un peu sur ces actes-là, comment on va être remboursé, du coup, pour voir un peu si. Les mentions sont bien en réalité avec la réalité. Mais voilà, mais après, du coup, de toute façon, on a eu quand même pas mal de soutien aussi là, sur les réseaux sociaux de par nos adhérents, etc., qui ont été un peu au courant de cette histoire. Et on n'a pas encore démonté, on va dire, l'ancienne serre qui nous restait de stockage. On va peut-être après voir un peu sur des financements participatifs, des choses comme ça, des aides de coup de main pour qu'on puisse déménager. Ben là, parce qu'en fait, c'était la serre qui nous servait de stockage de tout notre matériel, etc. Et tout. Donc là, on est en hiver, donc on n'a plus trop de travail. Mais ça, on va dépenser de l'énergie là-dessus, alors qu'on aurait pas mal d'autres choses à faire.
Ça paraît anecdotique, mais c'est un obstacle parmi d'autres. Et que c'est absolument aussi difficile que de tenir aussi finalement un modèle pareil, des obstacles comme ceci, des actes incendiaires que vous avez subis à de multiples reprises, des obstacles climatiques, quand on tient une exploitation, ça fait partie aussi des risques, bien sûr. Des déménagements après, alors ça fait 16 ans que vous existez, voire 18 ans.
Alors même, non, 18, oui, c'est ça, créé en 2000. Pour l'aube du nouveau millénaire, et du coup c'était assez marrant comme ça s'est passé, parce qu'on était, enfin il y a déjà une génération, et en gros on avait des financeurs, alors j'étais pas là dans la structure à l'époque, mais d'autres m'ont transmis un peu l'histoire, c'est qu'à la fin de l'année 99, il y avait beaucoup d'argent public, et ils savaient pas trop comment le financer. On était partenaire à l'époque avec une structure qui s'occupe de personnes qui sont en souffrance d'un handicap psychique, et du coup l'idée c'était de leur dire écoutez, sortez-les de la ville de Saint-Étienne, hein, du coup, et allez leur faire gratter la terre en périphérie, donc trouvez un terrain, trouvez quelque chose, vous allez les occuper. Donc au départ c'était des éducateurs, hein, du coup, donc la structure c'était le Lift, qui est situé place de l'Hôtel de Ville, centre de formation. Et du coup, donc, des gens se sont retrouvés dans un jardin de cure, dans la plaine du Forêt, 300 mètres carrés, avec des outils, aucune connaissance en jardinage. Et au-delà de toutes les difficultés, parce que bien sûr, de passer de 300 mètres carrés à 4-5 hectares, ça ne s'est pas fait comme ça. Aujourd'hui, ça a été créé dans cette optique-là. Il y a eu des difficultés, il y a eu des complications d'ordre politique, d'ordre financière, d'ordre déménagement, etc. Et tout. Mais la structure associative et ce que l'on défend au quotidien, on va dire, c'est donner du travail aux gens sur un travail qui ne sera pas délocalisé parce que les gens ont besoin de manger des produits accessibles, sains et bio. Du coup, ça fonctionne de plus en plus. Et aujourd'hui, on est dans des problématiques où on n'a pas besoin de commercialiser. C'est plutôt comment on arrive à répondre à cette demande-là, du coup. Nous, c'est notre question, c'est de dire, en gros, comment arriver à maximiser nos productions, être un peu meilleur sur nos rendements, pour pouvoir avoir plus de personnes à contenter, quoi, du coup.
C'est-à-dire que là, vous avez combien de... En volume, ça représente quoi ?
Alors, à peu près, on a 150 personnes qui prennent un panier, et on a...
Donc, adhérents ?
Adhérents, voilà. On est sous statut associatif du coup, donc une adhésion obligatoire, et on a à peu près donc le volume de vente, ce qu'on appelle hors panier, hors particulier pour les professionnels, c'est à peu près 150 aussi, voilà. Donc on est sur moitié-moitié, sachant qu'on souhaite stagner, on va dire, notre méthode de vente aux professionnels et plutôt répondre à la demande des particuliers, quoi, du coup.
Les jardins de Valériane, donc exploitation maraîchère située dans la vallée du Gier, labellisée en agriculture biologique.
Tout à fait, ouais, c'est un des fondements de dire, on a des personnes, voilà, qui ont des parcours de vie qui sont un peu compliqués. Donc, on va pas leur ajouter les problèmes de santé en utilisant des produits phytosanitaires qui peuvent être compliqués. L'idée du jardin, c'est que demain, tout le monde peut venir au jardin sans avoir forcément de connaissances en agriculture. Et ils vont être encadrés, du coup, par des professionnels du maraîchage et qui ont aussi, on va dire, cet aspect social, du coup, de faire travailler des personnes. En gros, notre plus-value, c'est de dire, si on n'avait pas tout le côté insertion-emploi, on pourrait avoir la même activité pour 2-3 personnes. Aujourd'hui, on est 20 ETP, du coup. Donc, 4 personnes...
Donc, équivalent temps plein.
Équivalent temps plein. Donc, ça représente à peu près sur une année 35 personnes qui vont travailler, entre ceux qui arrêtent, ceux qui continuent, parce que les parcours se font en fonction de la vie et des parcours des gens. Voilà, donc c'est vraiment la plus-value, c'est-à-dire qu'à surface égale, un maraîcher classique qui vend ses légumes à la ferme au quartier, il va embaucher 3-4 personnes, quoi. Alors que là, on multiplie quasiment par 10 le volume de salariat, quoi, du coup. Donc c'est bien l'impact qui est recherché par nos structures.
Est-ce que ça modifie le fait d'être jardin d'insertion ? Est-ce que ça impacte finalement le produit mis en vente, quoi, finalement, c'est-à-dire la valeur même du panier et du produit ?
Absolument pas. Du coup, aujourd'hui, les gens... Alors avant, on va dire que dans les années 2000-2005, on pouvait mettre des cailloux et de la terre dans nos paniers. On n'avait pas de soucis parce que du coup, les gens achetaient le projet d'insertion. Hein. Donc les légumes, il y a des adhérents qui sont là depuis le début. Ils nous disent, waouh, enfin, c'était une catastrophe, quoi, en termes de qualité de production, parce que on n'avait pas les outils, le professionnel, mais on était passionnés. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a complètement changé, du coup. Et nous aussi, on est parti du principe qu'une bonne insertion d'accueillir des personnes, etc., ça passe aussi obligatoirement par une production qui est à même, et voire même des fois supérieure à des maraîchers classiques, quoi, du coup. Donc on a beaucoup d'investissements en matériel, en hommes, en compétences, en techniques. Et aujourd'hui, les gens dans nos paniers, ça se fait au bouche à oreille, hein, du coup. Donc quelqu'un qui est satisfait va recommander autour de 10 personnes. Et on voit que depuis 2-3 ans, on a notre nombre d'adhérents qui continue d'augmenter, quoi, du coup. Et c'est nos capacités de production qui n'arrivent pas à suivre, quoi.
Ah oui. Et avec aussi ce développement dont on parlait un peu avec tout à l'heure de la ferme au quartier, c'est-à-dire cette tendance aussi à dépasser le consommateur ou la famille
aujourd'hui,
lambda,
on a
mais aussi à arriver à toucher les professionnels de la vente et de la restauration. C'est le cas pour Valériane.
Ah, tout à fait, parce qu'au départ, ça a été un peu en fonction, on a des légumes à qui on va les vendre. Alors à un moment, les paniers sur la région de Saint-Étienne, c'est quand même une ville qui a une histoire, on va dire, et un lien très fort avec la ruralité, du coup. On a tous soit de la Haute-Loire, soit de la Plaine, et on est quand même un territoire rural, donc avec des systèmes de vente, des agriculteurs, etc. et tout. Donc les AMAP se sont beaucoup développés, les points de vente collectifs, etc. Et nous, quand on arrive avec nos paniers, c'était un peu compliqué. Donc on est allé vers les professionnels, vers des magasins, etc. Après, on est allé aussi sur l'agglomération lyonnaise, et du coup, là, on revoit un peu que... En ayant des légumes tout à fait consommables et de qualité supérieure, à un prix raisonnable, parce que du coup, on se situe à peu près à 30% moins cher que des magasins bio, du coup, parce qu'il y a l'abonnement au panier, c'est-à-dire que les personnes ne choisissent pas forcément ce qu'il y a dans le panier, etc. et tout. On a à peu près aujourd'hui, on va dire, 20-30% de militants, entre guillemets, et le reste, c'est des consommateurs, du coup. Alors, il y avait un terme consommateur qui était quand même assez courant à l'époque, mais aujourd'hui, on est allé sur on vend un produit à un prix juste avec un service derrière. Et on est vraiment dans cette optique-là. Sachant qu'au départ, voilà, c'était plus on milite, etc., avec le tissu associatif, mais bon, ça fonctionne plus trop quoi, aujourd'hui. Quoi.
C'est trop bien, vous êtes tous à des prix justes. Donc ça, c'est parfait. On a du mal à aborder cette question-là dans le détail, mais on a essayé de faire un tour. Le temps passe très, très vite. Au mieux de ces questions-là, je rappelle Valériane, donc vous êtes situé à Rives-de-Gier, dit Antouilleux, jardin de Valériane, tout accroché en minuscule.fr, par exemple, pour le site dédié. On a essayé de faire un petit tour d'horizon rapide. On va laisser place, si vous avez des questions ici, publiques, n'hésitez pas à rentrer aussi dans le débat, bien sûr, et à poser vos questions. Y a-t-il des réactions ou non? Y a-t-il des réactions du côté table et intervenant, peut-être, pour arriver quasi au terme de cette émission?
Si vous vouliez parler du prix juste, du coup, vous avez quelques questions, parce que moi, je me dis, on va dire que sur les légumes plus en particulier, on ne va pas calculer le coût de production parce qu'on va être sur des prix que le consommateur est prêt à acheter. Donc, automatiquement, au vu des prix des services que l'on propose, on se dit, de toute façon, ils doivent être justes parce que les gens, enfin, on est sur une pente ascendante, du coup. Donc, si on était vraiment sur des prix beaucoup plus forts, beaucoup plus, etc. et tout, aujourd'hui, vu qu'on a affaire quand même à des gens qui consomment et qui sont au courant, on va dire, des tarifs que la grande distribution peut avoir, etc. et tout, on ne serait pas sur cette pente-là, du coup.
Sur les prix, c'est un sujet qui va nous occuper, je pense, encore très longtemps, tous les acteurs qu'on peut être autour de cette table pour arriver à des prix justes et qui soient accessibles au plus grand nombre. Je pense qu'il y a, comme tu disais, je pense juste avant, on est obligé d'avoir des produits de bonne qualité au bon prix pour sortir un peu des cercles des militants et des consommateurs. Et c'est quand même l'ambition, parce que si on reste entre nous, on ne changera pas le modèle agricole et le modèle alimentaire. Donc, comment on invente des nouvelles coopérations, des nouvelles façons de faire sur un territoire pour qu'on arrive à mettre en place ces filières territoriales équitables? Et moi, je donnerais quand même deux exemples. Il y a deux axes de travail. Là, nous, on en parle avec des producteurs qui, depuis 4-5 ans, justement, commencent à travailler un peu avec des plateformes, parce qu'on n'est pas du tout les seuls. Hein. Sur Saint-Etienne, il y a Bio Apro sur Brignais, Manger Bio, Isère à Grenoble. Enfin, il y a un réseau qui s'appelle les MBIM, les Manger Bio Ici et Maintenant, qui sont des plateformes montées notamment pour approvisionner la restauration collective. Et ils disaient, nous, depuis qu'on a légèrement massifié notre production et qu'on travaille avec des cuisines centrales, ou parfois c'est des palettes de yaourt qui partent de la ferme, certainement, évidemment, le prix unitaire du yaourt a vraiment diminué. Mais par contre, ils disent, nous, on a vraiment gagné en confort de travail. C'est vraiment notable. Donc il y a certainement des choses à faire. Après, à voir à quelle limite, c'est quand est-ce qu'on commence auquel développement de la distribution de ces produits-là, et où commence l'industrialisation de l'agriculture. Mais c'est un débat. Hein. Enfin, je veux dire, il faut qu'on l'ait dans nos réseaux pour pas tomber dans ce piège-là. Moi, je pense qu'il y a pas mal de pièges là, dans lequel sont tombés la grande distrie, les industries agroalimentaires, qu'on est complètement en train d'éviter. Mais on a forcément des défis à relever de ce côté-là. Et puis après, on a tous un rôle, et je pense qu'aujourd'hui, on le roule tous, d'éducation alimentaire, en fait. Donc, parce que forcément, moi je parle à titre personnel, moi j'ai entamé une transition alimentaire il y a 15 ans, et encore aujourd'hui je change des choses dans ma façon de m'alimenter, de consommer, pour avoir des prix, des produits qui sont de qualité sans exploser mon budget alimentaire. Quoi. Et donc ça, il y a un enjeu sur le territoire à animer cette sensibilisation et cette éducation populaire pour que les consommateurs changent leur manière de consommer. Et en ça, moi je trouve que la fourmilière, par exemple, en ayant des gammes de produits qui sortent, qui aillent même plus loin que le bio et le local, pour que des gens se sentent chez eux dans un magasin et au fur et à mesure entament leur transition alimentaire, ce chose qu'ils n'ont pas fait spontanément, ça c'est une démarche qui va ramener du monde vers nos réseaux et vers d'autres façons de consommer. Quoi.
Ouais. Consommer autrement, et puis les écueils sont là aussi parfois pour un certain secteur. Enfin, on parle de produits de qualité certes, mais le biologique par exemple aussi est tombé dans cet écueil d'une sorte de forme d'industrialisation. Complète aussi sur ce secteur. C'est quelque chose qu'on évoque peu, mais c'est une réalité.
C'est sûr, et nous, il faut qu'un point de vue territorial, on arrive à amener des réponses pour une bio paysanne, en fait. Et c'est bien parce qu'on va réussir à... Enfin, moi, je pense pour les magasins bio et d'autres circuits de distribution de produits bio, ils vont réussir à connecter avec une bio paysanne territoriale, qu'on se prémunira à un moment d'une industrialisation trop importante de l'agriculture biologique qui est toujours pareil, initiée par la grande distribution. Enfin, donc par des gros opérateurs, souvent multinationales, qui leur mode de fonctionnement, c'est l'industrialisation. Alors nous, c'est pas le nôtre. On essaie autre chose, quoi.
On a bien compris que vous tendiez à autre chose et que vous êtes aussi des formes d'expérimentation qui tendent encore à se perfectionner, tout simplement. Merci beaucoup à vous pour avoir apporté ces éléments, quelques éléments de réponse. Manger éthique et local, pourquoi, comment. Merci encore pour cette première table ronde de ce salon Tatou Juste. Je rappelle un tout dernier rendez-vous parce que l'agriculture en transition fait aussi l'objet d'un cycle de rencontres à Saint-Étienne, à la cinémathèque médiathèque stéphanoise, celle du quartier Tarentaise-Beaubrun. L'histoire en question, le cycle 8, est consacré à l'agriculture en transition. Il y a eu plusieurs rendez-vous proposés sous différentes formes, très intéressantes, et je me permets de rappeler la prochaine parce qu'elle aura lieu le 6 décembre, jeudi 6 décembre à 19h, salle grand public à Tarentaise, c'est gratuit. C'est un dialogue entre Gilles Clément, qui est tout de même une figure assez majeure, botaniste, ingénieur, horticole, paysagiste, écrivain, qui était venu sur ce salon même il y a quelques années de cela, qui entamera un dialogue avec Rémi Janin, qui est paysagiste, agriculteur. C'est une ferme du nord du département de la Loire, à Fourneau. Il était aussi avec son frangin hier à la librairie L'une et l'autre pour une rencontre dialogue et faire part de ses diverses expérimentations aussi qui sont menées localement. Voilà, dialogue entre Gilles Clément et Rémi Janin, le jeudi 6 décembre prochain. Merci encore à tous et toutes. À très bientôt.